Le conflit entre Israël et Gaza, et plutôt le Hamas, dure depuis 7 mois. On va en parler maintenant dans le Face à Duhamel avec Anna Cabana. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Alain Duhamel. Bonsoir, bonsoir Alain. On va en parler via un coup de gueule poussé sur la scène des Molières hier sur les récompenses du Théâtre français. Il est signé de l'humoriste et de la comédienne Sophie Aram. Elle a dénoncé le silence du milieu de la culture après le massacre du 7 octobre.
Dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Exiger d'Israël de cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains.
Alors ce coup de gueule, vous le comprenez, vous le partagez, légitime, Alain Duhamel?
Écoutez, dans ce qu'elle a dit, je partage beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qu'elle n'a pas dites forcément et que j'aurais aimé entendre. Je pense que s'il s'agit de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre est inoubliable, inacceptable, dramatique, bien entendu, elle a totalement raison. S'il s'agit de dire que tout le monde n'a pas réagi assez vite ou de la même façon ou n'a pas osé le faire, tout simplement, c'est sûrement vrai. Mais je n'enregistre aucun silence assourdissant à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai au contraire le sentiment d'avoir entendu énormément de choses, quelquefois des choses avec lesquelles d'ailleurs je n'étais pas du tout d'accord, mais très souvent des choses qui étaient de compréhension, de solidarité, et qui me parlait. Par ailleurs, elle a l'intelligence, c'est l'équilibre ou la sincérité, je n'en sais rien, de faire également allusion aux civils de Gaza. Et c'est vrai que, à mon avis, on n'entend pas assez parler de ce que vivent et de ce que subissent à leur tour les civils palestiniens de Gaza, qui sont bombardés, affamés, tués, etc. Et alors, derrière ça, il y a un paradoxe qui me bouscule, disons, dans cette période de campagne européenne, c'est que on assimile honteusement les Juifs de France à Tsahal et Netanyahou, et c'est de l'antisémitisme, et on assimile les musulmans de France au Hamas, et c'est aussi inacceptable. Tout ça est paradoxal et tout ça est inquiétant.
D'accord avec Sophia.
Mais
Alain, le silence du monde, de la culture, parce que c'est exactement de ça qu'il
bien
s'agit.
Sûr.
C'est-à-dire que oui, mais il faut bien voir que ce silence du monde de la culture, elle n'est pas la première, Sophia Aram, à le dénoncer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'animateur Arthur qui avait fait un post, voilà, tout de suite après le 7 octobre sur Instagram, où il avait imploré ses amis artistes, disait-il, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs. Il les avait exhortés à ne pas rester silencieux, à arrêter d'avoir peur. Il avait écrit « Il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue. » Une seconde fois, il avait écrit ça sous la photo d'une famille donc qui avait été massacrée intégralement par les terroristes du Hamas. On a la chanteuse Keren Ann qui, elle aussi, s'était insurgée sur les réseaux sociaux juste après le 7 octobre. Elle avait dit à ses amis artistes, elle aussi, « Nous avons marché ensemble, pleuré ensemble, chanté ensemble. Votre silence fait mal, écrivait-elle. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de nous soutenir ?» Il y a le dessinateur Johan Sfar qui avait toujours sur Instagram, posté quasiment tous les jours des dessins où il enrageait contre le silence.
Donc, en fait, ce que vous dites, voilà, c'est qu'à part les artistes juifs ou les animateurs juifs...
Alors justement, il y en a un qui n'est pas juif.
Non, mais les autres se sont tus.
Non, mais Philippe Torreton...
À quelques exceptions
près. Le comédien Philippe Torreton, il a été un des rares à venir sur un plateau de télévision pour dire que, précisément, les les artistes n'avaient pas
pourquoi
été
ce silence,
n'avaient pas été à l'auteur parce qu'il y a de la peur.
La peur de qui, de quoi?
Mais il y a de la peur de déplaire à ceux pour qui vous exercez vos talents quand vous êtes un artiste. C'est-à-dire que là, il y a besoin de faire consensus quand vous êtes
donc
un artiste.
Donc peur de déplaire à une partie de son public.
Or, il y a clairement sur ce sujet-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un sujet consensuel. Donc il y a une forme de frilosité, il y a une forme de lâcheté.
Donc elle a bien fait, Sophia Aramière.
Mais c'est bienvenu, bien sûr, c'est bienvenu. Vous avez remarqué le 20 secondes entières d'applaudissements, oui. D'applaudissements lourds, nourris.
Du coup, les artistes. Alors, du coup, les artistes, finalement, vous donnent tort, puisque là, ils ont manifesté un bruit. Ils n'étaient plus dans le silence, en applaudissant.
D'abord, globalement, après le 7 octobre, j'ai tout ressenti sauf de l'indifférence publique. Franchement, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que ça faisait. Des décennies, peut-être, que je n'avais pas vu autant de réactions et d'émotions après un drame de ce genre. Que les artistes, ou pas les intellectuels, mais que les artistes juifs aient peut-être moins manifesté leurs sentiments que d'autres, je ne l'avais pas remarqué, honnêtement. Est-ce qu'ils auraient eu peur? En général, Il faut distinguer artistes en l'occurrence artistes intellectuels, parce que parmi les intellectuels, juifs ou pas juifs, il y a eu énormément de réactions.
Mais là, Sophia Aram nous parlait.
Maintenant, pour les artistes eux-mêmes, peut-être est-ce que d'abord ils étaient traumatisés, peut-être est-ce que effectivement certains ont eu peur, c'est pas exclu. Peut-être aussi qu'ils se sont dit que dans des circonstances aussi dramatiques, comme on sait que les artistes en règle générale s'expriment beaucoup un peu sur tous les sujets, y compris ceux qui connaissent mal, peut-être qu'ils ont eu un sentiment de réserve. En tout cas,
mais alors pourquoi Sophia Aram? Vous dites finalement, c'est pas vrai, il n'y a pas de silence. Pourquoi Sophia Aram?
Je ne dis pas, il n'y a pas de silence.
Monte sur scène pour dire ça. Mais parce que visiblement, ce qu'elle dit, c'est fort, mais c'est en même temps, c'est du bon sens de dire qu'on ne peut pas non plus ne pas condamner le Hamas. On a l'impression que tout d'un coup, c'est une prise de parole très courageuse, parce qu'en France, finalement, on n'ose pas dire les choses.
Déjà, elle l'a bien dit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde s'exprimant sur des sujets aussi délicats. Et aussi dramatique. Ensuite, il est probable, enfin même, j'imagine que c'est son ressort, qu'elle a ressenti une insuffisante mobilisation de ceux autour d'elle qui auraient dû se sentir les plus concernés. Peut-être qu'elle a réagi comme ça.
Elle avait réagi.
Mais de toute façon, je ne la critique pas du tout. Puisque
il y a une partie de la classe politique qui demande le cessez-le-feu sans demander la libération des otages, par exemple.
Oui, non, ils ont tort. Ils ont tort.
On entend l'appel au cessez-le-feu. Ça existe. Peu quand même l'appel à libérer les otages.
Ça existe et ils ont tort. Mais en même temps, je reprends ce par quoi je terminais. Je suis inquiet et je trouve non seulement paradoxal mais dangereux le fait que en ce moment il y a une tentation en pleine bataille européenne, enfin en pleine bataille discrète, que dans cette période-là, on assimile trop facilement les Juifs français à Tsahal et a fortiori à Netanyahou, et trop facilement les musulmans français au Hamas. Et que c'est une façon de regarder les choses qui est d'abord fausse et qui ensuite est dangereuse. Parce que c'est quand même un paradoxe qu'on est, censé s'occuper des élections européennes et que ce qui occupe réellement les esprits, c'est ça, avec ses simplifications.
Alors un point sur Sophia Aram, elle avait poussé ce premier coup de gueule dès les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'était dans Le Parisien et elle s'était insurgée contre le silence des artistes. Elle était déjà très
donc
en
bien
colère.
Avant l'offensive israélienne d'ailleurs.
Absolument, elle disait pour le coup le silence des artistes s'était manifesté très en amont de l'offensive israélienne sur Gaza. Et Sophia Aram disait quand on compte le nombre d'artistes prêts à s'indigner sur tout et n'importe quoi, embrasser n'importe quelle cause débile, à sauter sur n'importe quelle indignation, ce silence, disait-elle dans Le Parisien, est à vomir, fin de citation.
Alors d'abord, je me rappelle très bien, parce que je l'avais lu, et que les termes étaient,
percutants.
Percutants, mais surtout plus passionnés que ce qu'elle a dit là, dont les termes étaient impeccablement calibrés, justement, pour entraîner l'adhésion. Bon, mais... ça va tout à fait dans le sens d'une hypothèse que je formais. et c'est même, je dirais, quasiment parallèle, qui est qu'il y a tellement d'artistes qui se sont exprimés avec énormément d'intrépidité et d'assurance sur des sujets dont ils ignorent tout et en se trompant complètement, que il y a dû avoir aussi une espèce de réserve.
Vous êtes sûr que c'est ça vraiment la vraie raison ?
Non mais
pardon, mais comme par hasard, les seuls artistes, excusez-moi, à part peut-être Philippe Torreton, mais les seuls artistes véritablement qui ont réagi après le 7 octobre, c'est des artistes de confession juive. Donc il y a quand même une interrogation. Pourquoi les autres se sont tus ?
Mais alors pourquoi les artistes particulièrement ? Parce que pour le reste, on entendait quand même que ça.
Non mais les artistes, puisque là on parle de Sophia Arendt, sur une scène de théâtre.
Non mais
qui interpelle les artistes.
J'ai bien compris. Il s'agit des Molières, etc. Bon. Elle s'est probablement sentie dans son milieu professionnel, solitaire et abandonné, sans doute. Que c'est ce qui lui a fait dire ce qu'elle a dit, en tout cas au moins deux reprises. Mais quand on est moins concerné qu'elle par ces questions, et qu'on a souvent pris parti, faut bien le dire, sans queue ni tête sur tous les thèmes... Il se peut aussi que quand on se trouve devant un vrai drame, qu'il y ait un sentiment.
Mais
voilà.
Je comprends bien ce que vous dites, mais le problème, c'est que ces mêmes artistes, on les a entendus ensuite sur Gaza. C'est-à-dire que moi, je comprends l'idée qu'ils n'ont pas envie forcément de s'engager sur tout et n'importe quoi. Mais ceux qui se sont tués sur le 7 octobre,
quand c'est grave.
Certains, on les a entendus sur Gaza. Et donc, on se dit deux poids, deux mesures.
Oui, enfin, sur Gaza, moi, j'ai surtout entendu des politiques.
Et des humoristes aussi.
Oui, mais beaucoup des politiques.
Mais les artistes, vous vous souvenez, il y avait eu une marche blanche qui avait été lancée juste au lendemain de la marche contre l'antisémitisme, donc le 12 novembre, marche contre l'antisémitisme. Le 13 novembre, il y a un collectif d'artistes qui appelle à marcher devant une banderole blanche. C'est-à-dire que précisément, la peur de prendre parti, donc il fallait agiter des mouchoirs blancs, des drapeaux blancs derrière une banderole blanche, c'est pas exactement un acte de courage et d'expression publique engagée, cher Alain Duhamel. C'est-à-dire que la banderole blanche,
oui,
quand même.
Mais je me rappelle. Ne levez pas les bras comme ça, c'est pour rien.
On aimerait plus de courage.
C'est un peu pitoyable.
Voyez, on est d'accord.
Mais en même temps, c'est une façon de reconnaître qu'on est pitoyable.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est marcher derrière une banderole.
Une banderole blanche, ça veut dire que j'ai pas le courage de dire ce que je pense. C'est quand même ça que ça veut dire.
Ben oui.
Donc c'est un acte de pénitence. Peut-être involontaire, peut-être inconscient, mais de pénitence quand même.
Mais nos artistes étaient plus nombreux derrière cette banderole que derrière quelque autre banderole. C'est ça le vrai problème.
En tout cas, moi, pendant cette période, j'ai d'abord été frappé par le fait qu'il y a eu des réactions d'une intensité et d'une instantanéité vraiment spectaculaires et que personne ne peut dire que les Français ont pris à la légère ce qui s'est passé à ce moment-là. Bien au contraire. Et c'est vrai que s'il y avait eu en plus telle ou telle star de cinéma ou telle romancière juive qui avait pris la parole avec...
Ou pas juive, Alain.
Bien entendu. Mais a fortiori. Bon, ça m'aurait fait plaisir, c'est sûr.
Et hier, au dîner du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole et a notamment rappelé la litanie des chiffres d'actes antisémites.
J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Dans cette période, ne nous laissons pas non plus berner par le cynisme absolu de ceux qui disent soutenir les Français juifs par réflexe anti-musulman, de ceux qui pensent que les Français juifs sont mus par la haine et qu'il y aurait donc un intérêt électoral à attiser une forme de haine anti-musulman. C'est profondément méprisant pour les juifs.
Rappel à toutes fins utiles, celui du chef du gouvernement.
Oui, alors en fait, il a parlé d'une vague d'antisémitisme, une vague d'une ampleur rare, plus forte, plus violente, plus relayée, plus établie qu'elle ne l'a été au cours des dernières années, a-t-il déclaré. Et clairement, il veut montrer que là-dedans, parce qu'il fait évidemment de la politique, Gabriel Attal, eh bien qu'au fond, le macronisme, dont il pense être l'incarnation étincelante, eh bien le macronisme est la seule voie de passage possible sur ce sujet, entre d'un côté les insoumis qui devraient avoir honte, donc, dit-il, de n'avoir jamais eu un mot pour les victimes du 7 octobre et le Rassemblement national qui n'a pas du tout fait le ménage dans ses rangs.
Donc, voilà, surtout,
gros, position, la position surtout, de Gabriel Attal.
Qui surtout feint d'être philosémite aujourd'hui
et qui ne l'est pas.
Pour en réalité être davantage islamophobe. Bon, mais bien sûr, dans les propos de Gabriel Attal, il y a une part de politique, il y a une part d'opportunité. Bon, ça, ça va de soi. Mais derrière ça, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et c'est ce qui, effectivement, complique le silence de certains, c'est que l'année dernière, en 2023, les actes antisémites, non pas les actes, les manifestations d'antisémitisme, heureusement, c'est quand même plutôt verbal en général, mais enfin, bon, de toute façon, c'est totalement condamnable, ont été trois fois plus élevé que l'année d'avant, et que depuis le début de l'année, c'est quatre fois. Donc, ça signifie qu'il y a effectivement une recrudescence brutale d'antisémitisme. Alors là, c'est pas, il ne s'agit pas des milieux culturels, intellectuels ou artistiques, c'est de l'ensemble de la population, et qu'effectivement, il y a ce que je regrettais tout à l'heure, sans d'ailleurs de pouvoir l'empêcher en rien, une identification dangereuse, abusive et artificielle des juifs français à Tsahal et à Netanyahou et des Arabes français au Hamas.
Merci Anna Cabana, merci Alain Duhamel.